Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, les tourments du couple à une époque où la séparation, le divorce se banalise. Eh bien, un sociologue de la vie privée, Jean-Claude Kaufmann, s'est retrouvé, malgré lui, emporté dans une enquête sur ces femmes piégées dans leur couple, qui ne parviennent pas à quitter leur conjoint, malgré la disparition totale de l'amour. Des femmes, nombreuses, lui ont demandé, non pas de les soigner, il est sociologue, mais de publier leurs histoires et de parler de l'enfermement du couple qui se meurt, malgré la liberté apparente de nos sociétés. Alors, pour quelle raison est-il finalement si difficile de rompre ? Faut-il incriminer les hommes, parfois murés dans leur silence, ou plutôt une injonction au bonheur dans nos sociétés contemporaines? Appelez-nous, les voisines, si vous vous sentez coincés dans votre couple. Les voisins, bien sûr, vous avez aussi la parole pour dialoguer avec Jean-Claude Kaufmann. Tous vos commentaires également sur les réseaux sociaux. Tout de suite, écoutez le témoignage de Mathilde, une jeune femme qui vit et travaille en région parisienne.
Je l'ai rencontré à une fête avec des amis. On était en vacances dans le sud. Lui, il vivait à l'étranger. Moi, je suis à Paris. Et puis voilà, on a commencé à se voir et à être officiellement ensemble, un couple, à distance, du coup. Lui, il était à Genève. Bah, du coup, on se voyait un week-end sur deux. Je me suis sentie très vite très amoureuse de lui. Il a 12 ans de plus que moi. Et je me suis sentie super protégée, en fait, par lui. Il était hyper costaud. Et moi, plus jeune que lui, je pense que je lui ai apporté quelque chose de frais. Ouais, on a été très amoureux. Ouais.
Et puis ça a basculé ?
Ouais, en fait, au bout de 6 mois de relation, un jour on est allé se balader en ville et je sais pas, j'étais de bonne humeur, il faisait vachement beau et je sais plus, j'ai dû me mettre sur une rampe d'escalier pour glisser ou faire un truc débile. Et ça l'a rendu fou, quoi. Tu te rends pas compte de ce que tu fais, c'est sale. Je me suis dit, mais c'est complètement disproportionné comme réaction. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et on s'est vraiment disputé fort, quoi. Il a commencé à mettre des mots sur quelque chose dont il n'avait jamais parlé à personne. C'était clairement des TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Par exemple, il venait jamais me chercher à la gare parce qu'il avait peur que je me sois assise dans le train et que donc j'étais sale. Quand j'arrivais chez lui, il fallait que j'aille prendre une douche et que je me change avant de lui dire bonjour, quoi. Même quand ça faisait 3 semaines qu'on s'était pas vus. Si j'avais, pas enlevé mes chaussures dans l'entrée parce que j'avais oublié mon sac dans le salon et que j'avais finalement fait machine arrière pour aller dans le salon avec mes chaussures pour aller chercher le truc. Et comme c'était des chaussures avec lesquelles j'avais marché dans la rue, pour lui, on pouvait plus ressortir, quoi. C'était grave ce qui était passé, il fallait nettoyer où j'avais marché, il fallait que je prenne une douche. Donc on était en retard, donc ça ne servait à rien d'y aller, et puis on s'engueulait parce que moi j'avais plus de patience, donc du coup, la soirée était foutue, quoi. Et ça en devenait quelque chose de super anxiogène, parce que je me disais, mince, je suis pas allée dans la bonne direction dans l'appart, je suis passée à gauche du canapé, il faut surtout pas. Et lui, il y avait des moments où il se mordait les joues pour pas m'engueuler, ou pour pas s'énerver du fait que je sois passée par là.
Et vous le faisiez ?
Ouais, je le faisais parce que je voulais pas le contrarier. Pas parce que j'avais peur de lui, mais parce que je me disais il souffre suffisamment pour pas que j'en rajoute en lui disant bah, n'importe quoi, c'est pas sale, quoi. Mais je me suis rendu compte, avec un peu de temps, mais je me suis rendu compte qu'en fait, bah, j'étais clairement son infirmière. Je me disais, je lui apporte du bien-être, je lui apporte de la douceur, et donc je vais aller dans son sens parce que je le comprends, je suis la seule au monde entier à le comprendre. C'est hyper valorisant aussi. Je suis la seule personne au monde à qui il en a parlé et qui le comprend et qui accepte et qui l'aime malgré ça. Mère Teresa, bonjour, quoi. Là où d'autres ont échoué, moi je vais le rendre heureux. Je suis sûre que j'en suis capable. Alors, il m'a apporté la sensation d'être utile.
C'est tout.
Ouais, mais c'est beaucoup. Enfin, moi ça me suffisait, sur le moment, dans ma sensation en tout cas. Mais sauf qu'au bout d'un an de relation, ça commençait à être un petit peu dur. Et puis je peux pas en parler autour de moi parce que ses amis, que je connaissais bien, personne savait, quoi. Je savais pas quoi faire, quoi. Parce que moi j'étais pas heureuse dans ma relation. J'aurais aimé qu'il tombe amoureux de ce que je suis, pas de ce que je donnais. Donc oui, je me sentais prise au piège parce que je me disais, il n'y a pas d'issue. Mais je ne peux pas le quitter, je l'aime. J'en étais arrivée à un point, vraiment, au bout d'un moment, où je me disais, je ne peux pas lui faire ça. Qu'est-ce qu'il va devenir? J'avais peur que ça le détruise, qu'il sombre. C'est mes amis qui m'ont dit qu'elle me voyait m'éteindre. Et j'ai mis du temps et je l'ai quitté. Je lui ai écrit ça en lui disant, prends-toi en main, enfin, décide d'être heureux, s'il te plaît, quoi. Même si c'est pas avec moi et je l'accepte et je m'en ferai une raison, mais fais-le, quoi. Je me suis vraiment fait violence pour me forcer à être dans quelque chose de très très égoïste, de ça ne peut plus être mon problème. Mais ça n'a pas été facile, mais je regrette pas.
Bonjour Jean-Claude Kaufmann.
Bonjour.
Vous êtes en France le sociologue de la vie intime, probablement le plus célèbre. Vous avez beaucoup écrit sur le couple, sur vraiment tous ces petits riens de la vie quotidienne qui font une existence finalement. Vos livres sont traduits dans le monde entier. Vous avez écrit sur des sujets parfois assez incongrus, sur la géopolitique des fesses, sur les seins nus sur les plages ou encore dormir à deux. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ces femmes malheureuses dans leur couple alors que justement le couple est censé se construire sur l'amour?
Oui, mais j'ai pas décidé en fait, hein, ça m'est tombé dessus malgré moi. J'étais justement dans cette enquête sur le lit, dormir à deux, et il y avait des témoignages nombreux sur mon blog, alors plein de témoignages avec des petits agacements, celui qui a chaud, celui qui a froid, etc. Et dans tous ces témoignages, il y avait un sous-groupe avec de la souffrance, donc quelque chose d'un petit peu différent. Et notamment cette femme qui avait témoigné. Alors, elle était dans une situation, la relation avec son mari n'existait plus. Alors, c'était, non seulement elle n'existait plus, mais il y avait une difficulté même à se frôler, une difficulté de proximité, presque, peut-être pas de la haine, mais une haine rampante, presque un petit peu du rejet, en tout cas de l'autre. Et pour des raisons matérielles, ils ne pouvaient pas divorcer et condamnés à vivre ensemble dans un petit appartement et dans une petite chambre, une seule chambre, donc à dormir ensemble malgré tout. Et elle expliquait comment ça se passait dans le lit, cette relation impossible, presque de haine, presque d'égoût, et passer toute la nuit avec le corps de l'autre à proximité. Et elle avait eu cette phrase. Alors c'était très intéressant parce qu'elle avait explicité ça au pluriel. Elle avait écrit... Nous les femmes, je ne sais pas pourquoi elle avait écrit comme ça, mais nous les femmes agrippées au bord du matelas. Et cette phrase-là, d'un seul coup, a déclenché une avalanche de témoignages. Des femmes se reconnaissaient dans cette situation de couple devenant impossible, avec en même temps l'impossibilité de partir.
Ouais, alors quand on s'accroche au bord du matelas, comme vous dites, pour ne plus frôler l'autre précisément, c'est évidemment c'est mauvais signe. Mais avant d'en arriver là, comment se construit le piège? On a entendu là le témoignage de Mathilde. Mathilde, c'est une histoire qui a bien commencé, qui a commencé avec de l'amour. Et puis il y a un piège qui s'est refermé, dont elle est parvenue à s'extirper, mais de justesse.
Bon, elle explique ça très très bien, Mathilde, Mère Teresa, hein, comme elle dit, elle est devenue, alors la mauvaise surprise, la découverte un petit peu de la manie très très forte de l'autre, elle est devenue son infirmière. Donc là, c'est un petit peu particulier, c'est un petit peu fort, mais dans le couple d'aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes l'infirmier de l'autre. C'est une des fonctions très très fortes du couple aujourd'hui. Une relation de confiance mutuelle et de soutien mutuel, on remonte le moral de l'autre. Parce qu'on est dans une société qui détruit le moral, l'estime de soi, sans cesse, qui détruit le respect, la fierté. Et quand on rentre chez soi, c'est d'abord un lieu tout simple de confort, mais aussi de réconfort. L'autre doit soutenir le moral. J'avais, par exemple, dans mon enquête sur les repas, il y avait un thème de conversation le soir très très fréquent. C'était le récit de journée avec tous les petits malheurs subis au travail. Et le conjoint compatissait. « Ah, t'as encore fait ça, mais c'est pas possible, c'est une vraie peste, etc. »
Oui, mais alors vous dites on est de plus en plus souvent l'infirmier de l'autre, sauf que votre livre, quand même, c'est piégé dans son couple et eux. Ce sont les femmes.
Oui.
Alors pourquoi les femmes?
Alors les femmes sont plus infirmières. Ça, dans l'histoire, elles l'ont toujours été. C'est dans leur rôle historique d'avoir été les pivots de la famille. Quand l'enfant est malade et une petite fièvre, c'est souvent
oui.
La plupart
mais
du temps.
Mais ces femmes qui se décrivent en fait profondément malheureuses dans leur couple, alors qu'elles pourraient partir, est-ce que on peut se demander si on se met à la place d'un homme notamment, est-ce que les femmes ne sont pas d'éternelles insatisfaites?
Alors, oui, elles sont insatisfaites parce qu'elles ont des rêves très très forts, très très haut placés. Les femmes ont eu depuis un siècle une trajectoire historique ascendante. Elles sont passées d'un rôle en deuxième zone, subordonnée, à une, pas encore l'égalité totale, il reste quelques boulons à serrer pour arriver jusque-là, mais vraiment jusqu'à acquérir des places dans la société. Donc elles ont développé une énergie vitale, une activité, et il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Et notamment dans la famille, faut que les choses ne ronronnent pas, sinon ça ne leur convient pas, donc faut que ça bouge au niveau de la tenue de la maison, des projets de décoration, le suivi des enfants, l'attention au couple. C'est pour ça, dans mon livre sur les petits agacements, c'était les femmes qui étaient massivement agacées parce que les hommes n'étaient jamais à la hauteur des attentes.
Ouais. Alors, en même temps, femme éternelle insatisfaite, quand on lit les témoignages qui sont dans votre livre, il y a aussi beaucoup d'analyses de votre part, hein, mais ce sont des histoires qui sont assez sordides, finalement, et en même temps, extrêmement plausibles. Probablement que ce sont des femmes que l'on croise tous les jours dans la rue, dans notre entourage, dans notre vie quotidienne. Simplement, la vitrine n'est pas conforme à l'arrière-boutique, on pourrait dire.
Oui, c'est une phrase, c'est dans un témoignage, cette phrase-là. Mais alors, ça, c'est parce que nous tous, partout, on défend la vitrine. Hein, on se met en scène dans les couples et la famille, on met en scène le bonheur. Tout va bien chez nous, c'est impeccable. Et quand ça commence à se dégrader, on continue à raconter cette belle histoire. Et le jour où ces femmes ont envie de partir, elles ne peuvent pas raconter l'autre version, même pas aux copines, même pas à la famille. Tu nous as toujours dit que c'était merveilleux avec lui. D'ailleurs, on le voit, il a l'air super sympa, tu as l'homme idéal. Pourquoi tu as envie de partir? Et là, le piège se referme.
Alors, quelle existence, au juste, vous décrivent ces femmes? On va y venir. Et comment se construit et se referme ce piège sur ces femmes qui sont piégées dans leur couple? Vous nous appelez, si vous vous reconnaissez dans ce que vient de décrire Jean-Claude Kaufmann. Do you sometimes that you're a sleep away? Something just feels different about you, babe. Don't wanna hear about your crazy drunk night out. I don't believe that you just passed out on the couch. I can see it, something in the way you move. You're acting like there's something left to prove. And all these lies, they keep on slipping out. I said I don't believe. Chez 7 milliards de voisins. Tiens, je vous lis un témoignage posté par un voisin, par un homme, Jean-Claude Kaufmann, puisque vous publiez Piégé dans son couple, mais au féminin. Aymar nous écrit de Brazzaville, au Congo-Brazza. Il nous dit « Moi, je suis en couple depuis 10 ans et notre amour est trop fort. Je me sens prisonnier dans mon couple à cause de cet amour qui me pèse sur les épaules. » On n'en saura pas plus, mais bien sûr, appelez-nous maintenant pour nous parler de ce sentiment d'être piégé dans votre couple, que vous soyez une femme ou un homme, au 33 1 84 22 71 71. Alors, comment pour vous se construit le piège et l'existence que vous ont décrit ces femmes, puisque vous êtes partie plutôt des témoignages des femmes qui ont été extrêmement abondants et qui vous sont tombées dessus par hasard?
Oui, le petit témoignage que vous venez de signaler, les hommes se trouvent des fois un peu trop envahis par les demandes, par la présence très forte, même des fois le sentiment, le désir de proximité de la femme, mais ils vont résister à cela en prenant des petites distances par des tactiques d'esquive. Ils s'aménagent des petits moments à eux, à l'extérieur ou à l'intérieur du couple. Les femmes, c'est très souvent différent parce qu'elles sont en première ligne. C'est elles qui portent tout le projet familial et le projet amoureux. Elles sont engagées en première ligne et c'est l'amour qui les entraîne. Et des fois, cet amour, il n'est plus tellement là, il n'est plus tellement palpable, il n'est plus tellement présent. Même dans la relation, il y a beaucoup de silence, il n'y a pas d'attention à l'autre, il n'y a pas de respect. Alors, premier temps, c'est comme ça, mais l'amour fait qu'on continue et on espère que demain sera meilleur. Ouais. Ça, c'est omniprésent dans les témoignages.
Il y a des femmes qui vous ont écrit, qui vous ont dit « on ne s'adresse absolument pas la parole, passe-moi le sel à table ».
Oui, il y a mais souvent, alors là, c'est quand on rentre vraiment dans cette crise muette, hein, et les hommes, à ce moment-là, s'enfoncent encore plus dans le silence, très souvent. C'est une manière de se protéger. Ils disparaissent un petit peu en eux-mêmes, alors que les femmes, au contraire, voudraient comprendre et avoir des explications. Donc, des fois, elles montent le ton, d'ailleurs.
Elles veulent comprendre et en même temps, elles ne font que s'isoler.
Oui, mais alors elles ne font que s'isoler, mais des fois là, le mari est un petit peu en cause, quoi. Il participe à ça parce que dans leur essai de comprendre, par exemple, elles ont parfois une copine, une confidente, donc elles essaient de la rencontrer pour discuter avec elle. Le mari voit ça et comprend que on parle de lui, quoi. Donc il va couper les ponts et avec la famille. Très souvent, ces femmes s'isolent et elles sont dans cet engagement amoureux en essayant que ça finisse par s'améliorer. Et puis, ça ne s'améliore pas et arrive... Là, c'est la ligne rouge. La ligne rouge est vraiment franchie quand, dans la relation interindividuelle, on passe du minimum de respect à l'inverse des petits dénigrements, des petites phrases qui tentent de rabaisser. Et alors là, le couple devient une machine infernale à détruire les deux personnes qui sont dedans.
Vous parlez d'une véritable obstination des femmes.
Oui,
comprenez ?
Oui, ben ça, c'est là aussi, il y a tout un héritage historique. Hein. C'est elle qui porte la famille. Et puis derrière, il y a le rêve. Il y a le rêve très fou d'amour et l'amour va revenir. Et si l'amour ne revient pas tout de suite, eh bien on baisse la tête et on continue malgré tout. On souffre en silence d'une certaine manière. On fait fonction, surtout s'il y a les enfants. Alors s'il y a les enfants, ça devient l'objectif de la vie. Au nom des enfants, on est prêt à accepter tout pour continuer pour les enfants.
Mais bien souvent dans toutes ces histoires qui vous sont parvenues, ces femmes vous disent rétrospectivement qu'elles auraient eu 1000 occasions, que le signal d'alarme en fait ne s'enclenche jamais pour dire « oulala, il faut que tu partes là, c'est très mal parti cette histoire, tant que tout est encore possible ».
Il y a plein de femmes qui rêvent d'un signal d'alarme. Il y en a même qui disent « j'aurais préféré être battue ». C'est terrible d'entendre ça. Ou qu'ils me trompent, mais qu'il y ait au moins un signe, un moment qui permette de déclencher ça. Et elles regardent en arrière sur leur vie et disent « mais bon sang, bonsoir ». À ce moment-là, notamment au tout début, j'aurais dû partir. Je ne ressentais rien, par exemple. Alors ça peut arriver. Le début du couple, c'est pas forcément le coup de foudre. Mais là, des fois, il y avait rien du tout, pas de sensation particulière. Il y avait l'idée qu'on allait être casé, que c'était un bon parti, d'une certaine manière, qui présentait bien, et qu'on allait être tranquille pour la vie. On ne serait pas célibataire. La peur de la solitude. Au début, il y avait des sensations qui étaient un petit peu négatives. Ça aurait été facile de partir.
Notamment sexuellement, avec des couples où très rapidement, il ne se passe plus grand-chose, par exemple.
Et là, au début du couple, très souvent, on est relativement léger et indépendant. Il n'y a pas trop de casse à se séparer. Quand les enfants arrivent, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, elles continuent et très souvent, elles mettent des échéances. Elles disent « dans 2 ans, je pars ». Quand les enfants vont rentrer à l'école ou à telle classe, etc. Les 2 ans arrivent et elles ne partent pas. Elles mettent des échéances plus lointaine à nouveau.
Les raisons matérielles aussi deviennent primordiales. La pauvreté, vous le dites, est souvent un enfermement supplémentaire. La crise économique actuelle, la récession, l'insécurité matérielle, financière.
Oui, alors là, à la limite, quand il y a ce cas de figure-là, c'est terrible, c'est presque plus reposant dans la tête parce que les blocages ne sont pas dans la porte.
On va y revenir.
C'est les raisons
matérielles. Piégé dans son couple, nous y revenons avec vous, juste après le flash dans 3 minutes. Les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Claude Kaufmann, sociologue, sociologue de l'intime. Vous publiez Jean-Claude Kaufmann, piégé dans son couple, quand le couple finalement se défait dans l'intimité mais ne parvient pas à se défaire vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas séparation, il n'y a pas divorce, et quand la vitrine n'est plus conforme avec l'arrière-boutique, pour reprendre l'expression d'un des témoignages qui sont dans votre livre. Si vous avez connu cette situation ou si vous vivez encore dans ce cas, les voisins ou les voisins, bien sûr, mais on l'a bien vu, c'est un phénomène qui touche massivement les femmes. Nous accueillons, si vous le voulez bien, Jean-Claude Kaufmann, une voisine qui nous appelle de Belgique. Bonjour Marie-Thérèse.
Bonjour.
Vous avez 46 ans, c'est bien ça? Vous êtes mariée?
Oui, c'est ça, exactement.
Oui. Depuis combien de temps vous êtes mariée?
Ça fait 14 ans que je suis mariée, et j'ai deux enfants issus de ce mariage.
Oui.
Et ça fait 3 ans que je me rends compte que je ne suis pas amoureuse de mon mari et que je me suis enfermée dans une bulle. Mmh. Et ça pourrit l'ambiance à la maison, ça va pas. J'ai même envisagé le divorce. Et là, je suis entrée en contact avec mon ex et je me rends compte que je suis très amoureuse de mon ex que de mon mari.
Ouais.
Qu'est-ce que vous me conseillez de faire?
Alors, comment vous la décririez, cette bulle, déjà? Quand vous dites enfermée, Marie-Thérèse, hein?
Je me dis, je veux rester pour les enfants, et comme on a un bien en commun, je dis, bon, je veux essayer pour voir l'avenir des enfants, mais je dois penser aussi à moi-même. Si je ne suis pas bien, ces enfants ne seront pas bien non plus.
Oui, mais pourquoi vous dites enfermée? Comment vous ressentez ça au quotidien?
C'est pas agréable. Je me sens prisonnière dans ce mariage. Je suis issue d'une famille quand même chrétienne, dont le divorce est quelque chose de tabou, entre guillemets. Et donc je me dis, quand je pense à ma famille, je pense à ce que je vis, je ne sais plus où mettre les pieds.
Oui, le divorce, ce n'est pas quelque chose de simple. Hein. Et puis, des fois, il y a l'envie de divorce. On se dit, on va se libérer de tout ce qui ne va pas. On ne sait pas comment ça va se passer par la suite, notamment pour se reconstruire. Donc, ce n'est pas évident du tout comme décision. Il faut donc... on voit que dans votre situation, par contre, vous essayez bien de réfléchir, d'avoir une bonne vision. Être à l'écoute de soi, c'est très très important. Est-ce que je vis, non pas un manque de bonheur, mais un début de souffrance? Il y a un aspect négatif qui rejaillit sur les enfants. Alors tout ça est vrai. Entre ça et la décision qui ne doit pas être trop rapide, il faut un petit peu réfléchir, parce que des fois la relation conjugale, elle reste vivante et elle peut changer. Il y a un creux et puis après ça peut revenir un petit peu mieux. Donc il ne faut pas aller trop vite dans la décision. Mais en même temps, il faut être vigilant. Est-ce que vous dites, vous sentez piégé, il n'y a plus rien? Alors ça commence des fois à s'installer dans beaucoup de couples, mais est-ce que ça va un petit peu plus loin? Est-ce que dans votre relation avec votre mari actuellement, il y a quand même un minimum de respect, d'échange, même si c'est plus le grand amour? Ou bien est-ce que ça va plus loin que l'indifférence? Parce que si c'est ça, alors là, c'est que ça commence vraiment à se gâter à ce moment-là.
Qu'est-ce qui reste exactement entre vous et votre mari, Marie-Thérèse?
C'est allé trop loin, parce que ça fait 3 ans effectivement qu'il n'y a plus de rapport sexuel déjà. Donc on se parle à peine, donc juste le nécessaire sur les enfants. Voilà, moi j'estime qu'il n'y a presque plus rien.
Il n'y a plus de complicité?
Non, ça il n'y a plus.
Est-ce que vous avez essayé j'imagine que c'est difficile d'en parler avec lui. Est-ce que lui vit mal aussi cette situation, ou bien alors il s'en fout un petit peu et puis il a sa vie à l'extérieur?
Je ne sais pas, parce qu'on ne parle pas, donc je ne sais pas ce qu'il pense. Ben, je le vois déambuler à la maison, je le vois sortir, entrer. Non, je ne sais pas, parce qu'il n'y a plus de dialogue.
Oui, c'est un cas très fréquent. Hein. Vous n'êtes pas seule dans ce cas-là. Hein.
Et toutes les femmes qui vous écrivent, d'ailleurs, Jean-Claude Kaufmann, disent on ne parle plus.
Ben, on parle plus.
C'est vraiment le point commun.
On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Vous décrivez très bien ce sentiment. Il y a des personnes qui disent qu'il y a quelque chose de gluant dans ce piège qu'on n'arrive pas à définir. Et du coup, c'est très difficile à prendre une décision.
Donc il n'y a plus de confiance aussi dans le couple.
Alors,
si on ne parle plus.
Il n'y a plus de confiance. Et le problème, c'est la confiance en soi. On peut perdre aussi un petit peu la confiance en soi.
Mais alors, sauf que vous, Marie-Thérèse, à la différence de beaucoup de femmes dont vous parlez, Jean-Claude Kaufmann, elle rêve d'avoir, justement, de rencontrer un autre amour pour que ça leur donne la force de partir. Vous, Marie-Thérèse, on voit bien que c'est ce qui pourrait être le déclencheur, non, pour la sortie du piège.
Oui, je pense. Je pense. J'ai pas encore très très bien réfléchi, bien que je suis en contact avec mon ex, mais je pense à ça aussi.
Oui, en tout cas, ce qu'il faut, vous avez eu une réflexion très très importante pour les enfants. Moi, je ne peux pas vous dire quelle est la bonne décision. Hein. C'est vous seul qui pouvez savoir et le ressentir vraiment en vous-même. Mais c'est vrai que pour les enfants, souvent, rester dans cette situation où le couple est un petit peu mort de l'intérieur, ce n'est pas très bon. Quoi. Ils ressentent hein, vraiment. Alors évidemment, un divorce, ce n'est pas simple. Hein.
Vous en parlez autour de vous ? Vous avez des amis à qui vous pouvez vous confier ?
Oui, je parle à mes amis. Justement, ils me disent, oui, pense aux enfants, parce que le divorce, c'est pas bien pour les enfants. Mais le fait que je reste là aussi, tout en n'étant pas bien, c'est pas non plus bon pour les enfants.
Voilà. Et souvent, c'est encore pire que le divorce.
Quoi. Ouais. D'ailleurs, vous écrivez dans votre livre, Jean-Claude Goffman, il existe des divorces, certes, explosifs, violents, mais l'insidieux piège conjugal est sans doute encore plus pénible à vivre.
Oui, pénible à vivre pour le couple, souvent pour les deux d'ailleurs dans le couple, même si c'est plus intense dans la réflexion féminine. Mais pour les enfants, c'est guère mieux. Hein. Ils le ressentent aussi, hein, les enfants.
Marie-Thérèse, continue à réfléchir, bien sûr. Bon, on vous souhaite du courage. Il y a des couples aussi qui parviennent à se reconstruire. Hein.
Oui, alors ça ne rend pas la décision plus facile, parce qu'effectivement, c'est parfois possible, mais quand l'indifférence arrive à ce point-là et qu'il n'y a pas le minimum de relations de respect pour inverser la tendance. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une tendance dans le couple. Des fois, il y a un minimum de bienveillance qui fait que même si c'est un petit peu coussi coussa, ça peut s'améliorer dans l'avenir. Quand on est sur la pente descendante...
Et que ça dure. Parce qu'on a des cas dans votre livre de femmes qui sont installées dans ce néant depuis des années.
Depuis 10 ans, depuis 20 ans.
Pour le coup, le piège est définitivement refermé.
Voilà, et alors là, c'est une mort lente de l'intérieur, c'est insupportable. Quoi.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Marie-Thérèse, c'est pas évident, je me doute. Merci de nous avoir, de vous être confié au sociologue Jean-Claude Goffman. Jean-Claude Goffman, vous avez énormément, faut quand même le dire, pour cette enquête, vous avez eu des centaines de femmes qui se sont confiées, qui vous ont écrit. Nous donnons la parole à Léa qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Léa.
Bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue, nous vous écoutons.
Ok, moi je parlais de ma situation, c'est il y a quelques mois. C'est une relation qui a duré un an et demi.
Oui.
Et au début c'est génial, c'est formidable, on s'aime, c'est les étoiles dans les yeux et tout. Mais après, au fur et à mesure que le temps passe, on se retrouvait juste à deux, parce que mon partenaire ne voulait plus voir mes amis, ne voulait plus voir mes copines, je n'avais plus le droit de sortir, je devais être là à une certaine heure.
Oui.
Pourtant, on était jeunes, on était des étudiants à l'époque, donc c'était pas...
Oui, vous avez 27 ans et en fait, votre petite amie vous a complètement coupé de vos copines. Pourquoi ? Quel était le prétexte ?
Non, en fait, il estimait que j'étais pas bien pour être avec moi, qu'elle profitait de moi, qu'elle ne l'aimait pas. C'est surtout ça, qu'elle ne l'aimait pas.
Ah oui.
Donc, et après, ça devient... Après cet aspect de renfermement, il y a eu des problèmes financiers. Si tu m'aimes, tu dois me donner tel montant. Tu veux que je vienne te voir, tu dois payer mon transport et tout.
Oui.
Au début, quand il y a tout ça, tu te dis que bon... S'il ne veut pas que ses copines viennent, peut-être que lui, il fait plus attention. Peut-être qu'il t'aime, c'est pour ça qu'il ne veut pas, par exemple, que tu fréquentes certaines personnes.
Oui, vous pensez que c'était pour votre bien, finalement.
Justement, au début, je me disais que c'était pour mon bien, c'était de l'attention.
Comment vous êtes sortie de ce piège, finalement?
Mais en fait, au fur et à mesure que le temps passait, je me rendais compte qu'on n'était que tous les deux. J'avais plus le droit de rien faire. J'avais l'impression que ma vie devenait morne. Alors un matin, j'ai décidé que bon... Il faut que je coupe le contact pendant un mois. Et si pendant un mois, il ne me manque pas autant que je laisse tomber, parce que ça ne sert à rien.
Ça, c'est pas mal, effectivement, comme épreuve et comme test. Donc, au bout d'un mois, qu'est-ce qui s'est passé?
Au bout d'un mois, j'ai coupé tout contact. Il m'a appelé, il m'a suivi dans la ville où j'étais. Il a débarqué chez moi, il a fait des problèmes et tout. Mais j'ai essayé de tenir bon. Parce que je me suis dit aussi que s'il n'y avait pas grand changement dans ma vie...
De ce que je comprends, Léa, c'est que le plus dur, ça n'a pas été tellement de le quitter, mais de résister ensuite parce qu'il a tenté de vous récupérer à tout prix.
Oui, surtout de résister. Parce qu'après, on s'est dit que non, mais rester seul, c'est pas aussi facile. Peut-être qu'après tout, il avait raison. Ouais. Bon, y a ce genre
vous avez dit au Standard, Léa, qu'aujourd'hui, vous ne croyez plus au grand amour, que finalement, les étoiles dans les yeux, comme vous le disiez il y a quelques instants, d'accord, c'est au début, mais après, le piège, est... vous semblez dire qu'il est forcément inexorable.
Non, en fait, je dis, oui, le grand amour, franchement, je n'y crois plus. Je parle et je suis devenue très pragmatique après ça.
Jean-Claude Kaufmann.
Oui, si, il faut croire au grand amour. Et le grand amour, c'est pas seulement les étoiles dans les yeux au début, c'est la construction de la complicité et de la tendresse dans la longue durée aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose de très fort. Hein. Ça peut être très fort hein, comme sentiment. C'est pas simple à construire. Donc, on a des moments comme ça, amoureux, qu'il faut espérer pouvoir les vivre à nouveau. Et vous avez très bien expliqué qu'au contraire, vous aviez... senti en vous-même que ça devenait morne. Moi, ce mot-là, je l'ai entendu souvent, morne, il y a presque mort dedans, oui. Hein, c'est une petite mort. On ne vit plus complètement, on vit moins fort.
Des femmes, vous dites, hein, en fait, c'est une vie qui est rétrécie de l'intérieur.
Qui est rétrécie, qui se vide, il y a le mot vide aussi qui vient très souvent. Et aujourd'hui, on ne veut pas rater son bonheur. On a conscience qu'on n'a qu'une seule vie hein, et que peut-être que ça ne va pas être le bonheur total, extraordinaire, 24 heures sur 24, il ne faut pas demander la lune non plus, mais quand on est déjà dans cette petite mort intérieure, ce n'est plus tout à fait ça. Et donc vous avez réussi à réagir très très vite et dans ce cas-là, alors là j'ai ça aussi très souvent dans les témoignages, c'est à ce moment-là que l'homme va déclarer sa flamme. Hein, des fois il dit c'est un peu un chantage affectif, hein, si tu pars... je me suicide, ou tu vas pas y arriver, etc. Mais des fois...
c'est ça, il y a des femmes qui disent, c'est au moment où je le quitte, il a jamais été aussi sympa avec moi.
Il des fleurs et tout ça, il n'a jamais fait ça avant.
Moi j'ai une autre situation. Moi, ouais. Il m'a dit, il va venir dans sur mon lieu de travail, il va passer toute la journée assis
ah oui.
devant mes collègues et tout.
Ah oui.
Ça m'a mis très, très, très mal à l'aise.
Ah oui, oui effectivement. Oui. Ça, c'est effectivement très dur. Merci de nous avoir appelés, hein, Léa de Douala. On a pas mal d'auditrices, d'auditeurs qui veulent s'exprimer, qui veulent dialoguer avec vous, Jean-Claude Kaufmann. Nous avons en ligne Ada qui nous appelle de Paris. Bonjour Ada.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 30 ans.
Oui.
Et vous êtes restée 8 ans avec un homme.
C'est ça, exactement, 8 ans.
Vous vous êtes sentie complètement piégée au bout de combien de temps?
Au bout de 6 ans.
Oui.
Au bout de 6 ans, au bout de 7 ans, je me revois lui dire « je veux qu'on mette fin à notre relation », il m'a dit non. Et puis le lendemain, on a fait comme si de rien n'était, donc je suis encore restée un an comme si de rien n'était, alors que ça n'allait pas.
Oui.
Et en fait, moi, mon déclic, ça a été que mon corps a lâché. J'ai fait un burn-out, j'ai été très malade, j'ai failli être amputée. Et puis aussi, je l'ai vu vraiment comme la vie s'écoulait, comme vous disiez, il n'y avait pas de bonheur, il n'y avait rien. Mmh. Un jour, on a eu une discussion avec sa famille et j'ai réalisé que dans 10 ans, on en serait encore au même point, je serais encore malheureuse et qu'il était temps que je parte en fait.
Vous êtes parvenue à vous projeter?
Oui, je suis parvenue à me projeter, mais aussi grâce à des amis. J'ai des amis en or, franchement, il y a des gens que j'ai découverts. Ils m'ont aidé à déménager, ils m'ont aidé à faire des démarches, voilà. Donc moi, j'en suis sortie. Et je voulais vraiment donner un témoignage d'espoir à ces femmes qui sont dans cette situation. Je pense aussi aux hommes, parce que je pense qu'il y a des hommes aussi dans cette situation. Partir, ça fait peur. Moi, j'avais acheté une maison avec lui.
Ah oui.
Donc je me disais financièrement, comment je vais faire. En plus, on était très isolés, donc j'ai pas le permis, donc pour bouger, etc. Et puis juridiquement, il y a plein de choses qui font peur. J'étais isolée parce que j'avais pas de famille. Et en fait, le vide fait peur, mais on peut remplir le vide de plein de choses. Aujourd'hui, moi, j'en suis sortie. J'ai même rencontré quelqu'un qui est merveilleux. Et voilà, je voulais vraiment donner un témoignage d'espoir. Il faut sauter le pas. C'est difficile. Il y a des choses qui sont difficiles. La solitude est difficile. L'inconnu est difficile. Mais l'inconnu peut être aussi très beau. On peut le remplir de très belles choses aussi. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Enfin, c'est difficile de ne pas avoir peur, mais il faut passer le pas.
Oui, d'autant plus que vous, ça n'a pas été simple quand même, hein, de ce que vous décrivez.
Non
seulement l'emprise de l'homme, mais la situation matérielle dans laquelle vous étiez.
Eh bien, oui. Et j'ai eu un banquier en or, franchement.
Un banquier en or.
J'ai continué à payer mon crédit. les crédits de la maison, à payer mon loyer parce que je suis partie. Il m'a fait du chantage affectif. Il voulait absolument avoir l'adresse de là où j'habitais pour pouvoir venir. Enfin, ça a été très compliqué. Oui. Il m'a fait du chantage aussi avec la séparation de la maison. Il m'a fait peur. Enfin, voilà, ça a vraiment été très compliqué.
Jean-Claude Kaufmann.
Oui, ben merci de ce message d'espoir, y compris dans des conditions difficiles, parce que c'est vrai que c'est jamais simple, hein, parce qu'il faut se reconstruire, hein, après la séparation, parce que quand on rentre en couple, c'est tout un changement de la vie, c'est pas un changement de décor uniquement, on devient une autre personne, hein, tout est bouleversé en soi, et il faut mettre une croix sur tout ça, et des fois dans des conditions difficiles. Alors vous le dites très bien, ce qui est important, c'est d'avoir des appuis dans ce moment-là. Là, c'était pas la famille, mais c'était les amis, et il faut s'appuyer là-dessus, ça c'est tout à fait essentiel. Si on peut donner, c'est très dur de donner des conseils parce qu'on ne peut pas dire des fois il faut partir ou pas partir, etc. Mais dans les conseils qu'on peut donner, c'est d'éviter d'être complètement isolé, avoir un minimum de relations sociales pour pouvoir s'appuyer. Mais en tout cas, merci de ce témoignage d'espoir. C'est pas pour dire toujours qu'il faut partir, parce que c'est à chacun de décider. Ce n'est pas toujours simple.
Votre livre, ce n'est pas du tout l'apologie de la rupture.
Non,
d'ailleurs,
non,
vous êtes un sociologue du couple.
Non, mais quand
on
est dans la souffrance, quand la souffrance se manifeste par une somatisation, par exemple, j'ai plein de cas comme ça. Vous avez dit, Ada, que vous avez fait un burn-out. J'ai des gens qui ont des maladies de peau, des choses comme ça, qui sont vraiment, ça ne va pas. La personne est en train de se détruire. Donc, quand on est comme ça et que la relation est vraiment négative à ce moment-là, il faut avoir un peu de courage, d'audace, et c'est pas toujours simple, parce que comme on a été détruit de l'intérieur, on a moins d'énergie, moins de confiance en soi, donc c'est pas simple.
Évidemment, c'est intéressant le témoignage d'Ada qui nous appelle de Paris. On est quand même dans un pays, sur un continent où plus d'une union sur trois se termine par une séparation, donc ça peut sembler paradoxal
ce
que vous avez décrit.
Oui.
En majorité, ce sont les femmes aussi qui partent, et vous êtes intéressée à celles qui restent, à celles qui s'obstinent envers et contre
Alors c'est exactement le contraire. Et tout ça est relié, quoi.
Tout ça est relié parce que quoi, dans le fond? Parce que nos attentes du bonheur à deux n'ont jamais été aussi fortes dans notre monde aujourd'hui.
On a des attentes très fortes. Et puis, des fois, on part vraiment tellement de soi dans la société d'aujourd'hui. Par exemple, dans les rencontres amoureuses, très souvent, on ne s'engage pas parce que c'est jamais la bonne personne. Donc, on a le rêve de rester soi et puis de rajouter l'autre sans qu'il dérange d'une certaine manière, quoi. Alors que, justement, l'entrée en couple va être un bouleversement. Donc des fois, les ruptures sont trop rapides et même on ne s'engage pas parce qu'on prend des prétextes. Et les personnes qui font péter les choses, c'est les femmes. C'est les femmes qui partent dans 9 cas sur 10. Les hommes, quand ils se sentent mal, ils vont prendre un peu de distance. Ils vont rester au foot avec les copains, etc., voire... plus,
petite trahison, l'esquive,
le silence, etc. Donc la femme n'en peut plus et décide de partir. Mais il y a l'inverse, c'est-à-dire que lorsqu'on s'engage, eh bien ça transforme la personne, on est entraîné là-dedans, et là les femmes sont encore en première ligne.
Alors on avait un témoignage d'une voisine qui nous appelait, et je la remercie encore, Ada, de région parisienne. On a eu aussi une voisine de Belgique. Vous nous appelez bien sûr de nombreux endroits. Nafita nous appelle de Bamako, un pays où le divorce ne va pas de soi. Bonjour Nafita.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous avez 29 ans, vous êtes mariée depuis 8 ans et je crois que vous êtes en procédure de divorce.
Ouais, j'ai demandé le divorce en début d'année parce que j'étouffe en fait. Avec mon mari, je n'ai jamais le droit de rien faire, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel, en apparence devant tout le monde. Voilà, on essaie de faire comme si ça va, mais ça va pas. On en a déjà... parler dans la famille, ma belle famille. Mais bon, moi, quand j'ai décidé de demander le divorce, tout le monde s'est braqué. On me dit non, il ne faut pas. Je me bats au quotidien pour mon travail qui demande des déplacements à l'étranger. Il s'y oppose vraiment tout le temps.
À l'heure actuelle, vous cohabitez toujours avec votre mari, si j'ai bien compris,
Nafita.
On cohabite
toujours, mais moi, j'ai fait chambre à part. On a deux enfants.
Oui.
Il me demande même de couper les ponts avec mes amis parce que je dois lui obéir. Je demande tout le temps, par exemple, quand il s'oppose à mes voyages, pourquoi? Il me dit non, parce que je l'ai décidé, quoi. Et je me dis...
Des voyages professionnels.
Moi, effectivement. Moi, ce n'est pas pour ça que je me suis mariée. En gros, je ne m'épanouis pas comme il faut. Et maintenant, j'apparais comme celle qui se rebelle et ma propre famille ne me soutient pas dans ce divorce. Je ne leur demande même pas de me soutenir, mais au minimum de me laisser aussi prendre ma décision. Quoi. Tout le monde veut que je reste mariée.
En fait, vous ne parvenez pas à décrire ce que vous vivez au quotidien. J'imagine que ce n'est pas évident de le décrire, non?
Non, je n'ai pas forcément envie de tout dire parce que c'est vraiment, il y a plein de choses. Quoi. Il y a beaucoup de choses intimes, tout, il y a plein de choses, vraiment. Et moi, je me dis que ça y est, quoi, c'est la fin et voilà, personne ne veut me comprendre, mais je me dis que c'est la fin et je suis prête à assumer, je suis prête à aller jusqu'au bout. Je sais qu'un divorce, c'est long, c'est pas facile, on a deux enfants, mais moi, je suis jusqu'au bout et je vais continuer à affronter.
Mais Nafita, en même temps, quand on vous entend en larmes au téléphone, on ne peut pas mettre en doute ce piège qui s'est refermé sur vous dans votre couple. C'est ça qui est compliqué, en fait.
Oui, hein. Mais en même temps, l'entourage ne comprend pas. C'est tellement dur à dire, à expliquer. Comme le dit Nafita, en plus, on n'a pas trop envie de déballer tout ça, puis c'est des choses un petit peu sordides, tellement loin de ce qu'on imagine, de l'idéal du couple. Le manque élémentaire de respect pour la personne qui est en face, l'empêcher de voir ses copines, ses amis, interdire...
Est-ce que Nafita, justement, vous avez le sentiment que votre couple a ébranlé votre confiance en vous-même ?
Pas du tout. Moi, j'ai confiance en moi, mais au début, je me disais ça va aller, parce que nous, ce qu'on nous fait croire ici quand on se marie, c'est de te dire oui, il y a tout ça dans le mariage. Même maintenant, mes tantes, c'est ce qu'elles me disent. Nous-mêmes, on a ça dans notre mariage, mais on est quand même resté pour nos enfants. J'ai dit d'accord, mes enfants, je veux bien, mais il ne s'agit pas non plus de rester dans un couple où ça ne marche pas avec le principal intéressé, quoi. Moi, je me dis non, c'est pas possible.
Non, mais on sent
et là, je suis prête quoi, à affronter.
Ça ne marche pas depuis combien de temps, en fait? Depuis le début?
Ça ne marche pas. Peut-être qu'on a essayé de bricoler depuis le début. Parce que peut-être que lui aussi, il a essayé de cacher un peu son côté autoritaire et voilà, c'est tout. Mais ça finit toujours par réjaillir. Et là, comme on le dit, l'habitude revient au galop. C'est aussi simple que ça.
Nafita, merci beaucoup de nous avoir appelés. Je pense que votre témoignage est important pour d'autres voisines qui n'ont peut-être pas eu l'énergie que vous avez de nous appeler en direct. Je voudrais qu'on laisse le témoignage de fin à Armel, un voisin qui nous appelle de Libreville. Bonjour Armel.
Et oui, bonjour à vous.
Armel, vous nous avez appelé parce que vous voulez nous parler de la vie qu'ont eu vos parents en couple.
Oui, la vie de mes parents, ils ont vécu au moins 50 ans dans le mariage. Au début, c'était tout rose, mais après, avec le temps, il y a eu des problèmes qui commençaient bien à arriver, à rentrer. Nous avons senti ça en tant qu'enfant, qu'il y avait des petits soucis. Mais à cause de la famille et des liens de mariage, vous savez que le mariage ici... Ça s'est fait entre clans, et ils n'ont pas voulu divorcer. Et ils ont fait un mariage d'amour au début, mais après c'est devenu un mariage de raison. Parce qu'il fallait garder les enfants, ça cause trop de problèmes lorsqu'il y a un divorce. Surtout pour les enfants, ils sont beaucoup impactés, influencés négativement.
Mais donc en fait, vous avez toujours senti que vos parents ne s'aimaient plus.
Oui, oui, nous avons senti ça, qu'il n'y avait plus vraiment ça. Mais parfois, ça se remettait ensemble. Mais vous sentez que c'était pas vraiment ça, parce que parfois le père parlait de prendre une deuxième femme, mais il était obligé à cause des enfants, dit bon, ça ne sert à rien de refaire encore une autre.
Oui. De répéter un deuxième échec. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Armel. Jean-Claude Kaufmann, évidemment, on donne pas forcément une vision très positive du couple aujourd'hui dans cette émission, mais vous avez beaucoup écrit de très belles choses sur le couple, il faut le dire. Mais finalement, parmi toutes ces femmes qui sont piégées, qui vous ont écrit pendant des nuits entières parfois, est-ce que certaines sont parvenues à briser leur chaîne? Et puis finalement, vous, qu'est-ce que vous avez appris de plus sur le couple que vous pourriez transmettre aux voisines qui nous écoutent? Peut marcher aussi.
J'ai compris encore plus, ça fait 25 ans que je travaille sur le couple, que c'est incroyablement difficile à construire un couple. Et puis on a des modèles comme ça de simplicité, de perfection, ça serait des modèles qui sont alimentés par le fait que tout le monde défend la vitrine, justement, affiche la vitrine du bonheur. En fait non, c'est compliqué, c'est normal qu'il y ait des moments creux, des insatisfactions, parce qu'on veut être ensemble, mais en même temps se sentir encore relativement libre, avoir son espace, il y a les manières de l'un, les manières de l'autre. Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Mais là, ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert, c'est que des fois, on n'est pas simplement dans un amour qui est un petit peu éteint, quoi, hein, dans une simple routine. On tombe dans une machine vraiment infernale qui détruit les individus vraiment très très fort. Donc le couple, aujourd'hui, ça peut être ça. Ça peut être le moyen, l'instrument du bonheur ou simplement du bien-être.
Comme ça peut être un broyeur.
Comme ça peut être un broyeur. On tombe vraiment dans l'inverse à ce moment-là. Et ça, c'est pas très connu. On sait quand il y a des violences conjugales, par exemple, ou des choses comme ça. Mais là, des fois, on ignore un petit peu ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas des attentes trop fortes, finalement, sur ce bonheur à deux ?
Alors, en plus, on a...
Alors que beaucoup de choses se délitent autour de nous dans notre monde actuel.
Je pense qu'on a quand même raison d'avoir des attentes fortes, d'avoir encore des rêves romantiques, etc. Parce qu'il faut pousser la réalité, c'est ce qui nous entraîne. Mais, en même temps, il faut rester lucide quand la situation est vraiment abominable.
Merci beaucoup, Jean-Claude Kaufmann. Vous publiez Piégé dans son couple, il y a de très nombreux témoignages et vos analyses aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci aussi à vous les voisines de nous avoir appelés en direct dans l'émission et puis également pour vos témoignages sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Pour toutes vos réactions, vous pouvez continuer à nous écrire également par mail à 7milliards@rfi.fr. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion d'une émission sur l'éducation et les devoirs à la maison. Comment aider son enfant? Comment surtout éviter les crises de nerfs? Ne manquez pas l'émission et les conseils de nos experts.